Non, mais il marche, c'est mon ordi qui s'est mis à... C'est juste mon ordi qui s'est mis à... Donc voilà, hein. Ouais, ça a même bougé.
Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Tous les membres du conseil d'administration de la PUP Envol vous souhaitent la bienvenue à cette conférence consacrée à une tradition médiévale aussi spectaculaire qu'attachante, le papogueï de Rieux-Volvestre. Pour nous en parler plus en détail, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Fréchou et Serge Picard.
Bon, je vais laisser le mot président.
Bonsoir tout le monde. Mais bien heureux de vous trouver ici, hein, à Carbonne. Vous parlez du papouet, c'est original, mais on nous a demandé, on le fait avec plaisir. Voilà, donc on va vous présenter un petit peu ce qu'est le papouet. Je ne pense pas voir beaucoup de monde qui le connaissent par là. Donc voilà, ceux qui le connaissent, on espère vous apprendre quelque chose encore. Et ceux qui ne le connaissent pas, on va essayer de vous expliquer d'où ça vient et où ça va. Voilà. Donc je passe la parole à Serge.
Ouais, alors là, en fait, tous les Rivois qui sont là vont s'enlever la pression. On n'a pas le temps de dire des bêtises, du coup. Bon, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu le fait du papouet? Ah, c'est bien, 2, 4, 5, 6. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, il y en a qui les ont vus trop souvent. On espère leur apprendre quand même des choses. Donc tous les premiers dimanches de mai, depuis plus de 400 ans, à Rieux, on tire le papouet. Alors, d'où ça vient, cette histoire-là? Ben, en fait, comme dit monsieur à l'introduction, ça vient du Moyen-Âge. Comme toutes les compagnies de tir à l'arc qui existent aujourd'hui, les confréries de tir à l'arc, cette tradition remonte au Moyen-Âge. Donc pendant la guerre de Cent Ans, en fait, les Anglais ont été beaucoup plus performants que les Français au tir à l'arc. Et on a pris des pâtés, notamment à Crécy en 1346. Et en fait, les Anglais, ils avaient, bien avant la guerre de Cent Ans, interdit tous les jeux de hasard dans le royaume. Et les gens étaient obligés de tirer à l'arc. Le jeu qui était autorisé, c'était de tirer à l'arc. Du coup, Charles V, il a un peu imité les Anglais et il a interdit les jeux de hasard en France et demandé à ses sujets de s'entraîner au tir à l'arc et à l'arbalète. Donc ça, c'était dans les années 1350, etc. Et en 1448, Charles VII, lui, il a créé le corps des francs archers. Et là, c'était réellement un entraînement guerrier. Chaque ville devait fournir un à plusieurs jeunes hommes qui devaient être prêts, s'entraîner au tir à l'arc pour être prêts à partir à la guerre. Voilà. Du coup, c'est à partir de là qu'ont été créés partout en France des confréries d'archers. Bon, ensuite, effectivement, l'arc et l'arbalète ont été supplantés par les fusils, les mitrailleuses, etc. Et donc, ces fameux corps francs archers ont disparu. Par contre, le tir à l'arc est resté pratiqué dans des compagnies traditionnelles. Et toutes les compagnies, donc, ce que je disais tout à l'heure, en français et même en Europe, ont cette même origine historique. Alors, aujourd'hui, il y a des compagnies d'archers. Alors, là, le tir à l'arc, on le voit pratiqué, par exemple, aux Jeux Olympiques, sur des cibles, etc. Des associations, des sociétés de tir à l'arc, des confréries de tir à l'arc et des compétitions de tir à l'arc. C'est pas du tout ça, c'est le tir traditionnel. Et la particularité, c'est le tir traditionnel à la verticale, qu'on appelle la perche. Alors ce tir, on le retrouve actuellement dans beaucoup de compagnies dans le nord de la France, en Belgique. Et après, je passerai la parole à Jérôme qui vous en dira un mot. Mais en fait, ils ont un tir qui reste à la verticale, mais qui a été, comment dire, un peu dévoyé, un peu adapté au XXe siècle. C'est-à-dire, ils tirent sur... On n'a pas de photos, on n'a pas donné de photos, mais c'est des perches verticales métalliques avec... comme des branches d'un arbre, sur chaque branche il y a un petit bout de, comme on imagine un bouchon en liège avec des plumes, et les archers tirent au pied du mât, tirent chacun leur tour et essayent de décaniller ces petits oiseaux. Ils appellent ça aussi des oiseaux, comme nous. Et effectivement, ils font aussi le tir du roi. Celui qui tire l'oiseau le plus haut et désigné roi, voilà, etc. Et ils font ça tous les dimanches, comme nous ici on joue à la pétanque, là-bas, chez eux. Tous les dimanches, ils se baladent avec leur matériel, ils ont une remorque avec leur mât qui se replie, et ils vont tirer à l'arc à droite à gauche dans les contrées. Ensuite, il y a des compagnies d'archers qui tirent aussi, une fois par an, le tir du roi sur des cibles à l'horizontale. Par exemple, à Muret, ils font le tir du roi tous les ans, mais sur des cibles horizontales. Et nous sommes la seule compagnie d'archers, et je vais passer la parole à Jérôme, en France et en Europe, à avoir gardé vraiment la pratique ancestrale du tir vertical à la perche.
Oui, nous, en fait, c'est le but de l'association du papougaï de Rieux. C'est le maintien de la tradition du tir au papougaï comme il se faisait à l'époque. Alors, on a les statuts de l'époque, et nous, toutes nos règles sont les mêmes depuis quelques centaines et plus que centaines d'années. Du coup, on a été contacté d'ailleurs par une société en Belgique, puisque eux font la pratique du tir, on va dire sportif, sur la perche verticale. Ils nous ont contacté il y a 4 ou 5 ans. En tant que plus ancienne société de tir traditionnelle d'Europe. Voilà. Ils ont fait leur recherche. Eux, ils ont des statuts qui datent de 1450-1500. Et du coup, ils nous ont appris qu'on était la plus ancienne société de tir traditionnelle d'Europe. Voilà. Eux, ils font une pratique, donc le tir au bouchon. Et tous les 4 ans, il y a les championnats européens de tir, où là, c'est un tir à l'arquebuse sur un oiseau. C'est plus un tir à la cible, mais on va dire qu'il y a une cible à 15 mètres de haut, et le but est de tirer, et le meilleur à cette cible devient empereur. C'est-à-dire, ils réunissent tous les rois d'Europe des 4 dernières années, et ils tirent tous ensemble, et le meilleur devient empereur pour 4 ans. Voilà, donc, et tout ça, c'est toujours la même racine qui vient de ces statuts-là édictés par le roi de l'époque.
Donc, puisqu'on parle de statut, donc, la pratique du tir au papougaï à Rieux, elle remonte, donc ça on en est sûr, au moins au XVIe siècle. Alors, pourquoi on en est sûr? Parce qu'on a conservé à Rieux deux cahiers de parchemin, un qui date de 1585 et qui appartenait à l'époque à la compagnie des chevaliers de la mallette, qui réunissait surtout les gentilhommes et les bourgeois. Et une autre compagnie qui a été créée quelques années après, en 1589, c'est la Société du Jeu de l'Arc, ou Confrérie Saint-Sébastien, c'est la nôtre, c'est la nôtre. Nous, on découle de ces deux compagnies qui ont après fusionné au fil des années. Et celle du Jeu de l'Arc réunissait surtout les paysans et les artisans. Et pourquoi je dis que c'était au moins le XVIe siècle, c'est que dans ces documents, les gens qui ont recréé cette confrérie ont bien précisé qu'ils l'ont recréé après des années de sommeil. C'est-à-dire ces confréries étaient en sommeil et ils les ont recréées en 1585. Donc depuis quand ça datait, à Rieux, on n'en sait rien du tout. Mais entre 1350 et 1585. Voilà. Donc sur ces deux parchemins, ces deux cahiers de parchemin ont été conservés précieusement par la commune de Rieux. Jusqu'à la fin des années 70. Et puis, à la fin des années 70, il y a eu des travaux de réfection de la mairie, et ces deux cahiers de parchemin ont disparu. Et donc, nous, pendant des années, on a cherché à savoir où avaient pu passer ces fameux cahiers de parchemin. Jusqu'aux abords de l'an 2000, pour l'an 2000, on a fait un papouille un peu exceptionnel, et on a eu besoin, plus que d'habitude, de rechercher notre histoire, nos racines, et d'être certain de ce qu'on a annoncé, parce qu'on a annoncé des choses sans l'avoir jamais vu. Et là, comme par miracle, il y a un des deux parchemins qui est revenu, un habitant, qu'il avait conservé pour pas que personne de nous le vole, quoi. En gros, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, il nous l'a ramené, et donc on a eu la joie de le récupérer. Aujourd'hui, il est aux archives départementales, et Jérôme pourra vous montrer un facsimilé, un scan de ce parchemin. Donc aujourd'hui, il est scanné par les archives départementales. Et voilà. Et donc, c'est celui de 1589. Donc je fais un appel, il y a des grivois dans la salle, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'on le croit. Celui de 1585, on ne l'a toujours pas retrouvé. Il est forcément quelque part, dans un placard, dans un grenier, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont existé les deux, parce qu'on a des preuves, notamment sur un document qui a été écrit par un chanoine, le chanoine de Contrasti, en 1936, lequel a écrit donc un livre sur Rieux et ses évêques, l'histoire de Rieux et de l'évêché, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, Rieux était un évêché depuis 1350 jusqu'à la Révolution. Voilà. Et donc, dans ce document, il y a un petit chapitre qui est réservé au pape Ogaï, et là, il non seulement il fait référence, mais il cite des extraits des deux courchevins. Donc, voilà. Nous, on n'avait que ce document jusque-là, de 1936, plus un petit document qui avait été écrit en 1922, qui est à l'intérieur, là, sur l'histoire du pape Ogaï. C'était les deux choses dont on disposait, mais on n'avait pas les originaux de parchemin. Et donc, voilà, on disposait de ce tout petit fascicule qui date de 1923, qui est l'histoire du pape Ogaï, mais écrit par on ne sait pas qui, d'ailleurs, il n'est pas signé. Et il relatait ces deux cahiers de parchemin. Donc maintenant, on en a un, donc ça, on est sûr. Donc à Rieux, on tire le pape Ogaï depuis 1585. Il y a eu plein de périodes d'arrêt, hein, il y a eu des périodes d'arrêt, mais on a toujours retrouvé... Donc ces statues de la confrérie Saint-Sébastien qu'on vous a montrées là, elles ont été approuvées par l'évêque de Rieux. Les deux approuvées par l'évêque de l'époque, qui était l'évêque de Rieux, Jean Dubourg. Donc là, de suite, on voit de toute façon un rapport très proche, enfin, une proximité entre ces confréries et la religion. Bon, de toute façon, Rieux était très lié à la religion, hein, c'était un évêché, il ne faut pas oublier. Donc on voit dans ces statuts qu'à l'époque, ces confréries d'Archer étaient très liées avec la religion. Donc, sur ce document-là qu'on a pu éplucher dans tous les sens, bon, c'est pas facile à lire, hein, mais... Donc, il date de 1589, celui-ci, et ensuite, il y a plein d'écrits, vous pourrez le regarder tout à l'heure si ça vous intéresse, où on retrouve des noms de rois, des listes d'archers, etc., dans les années 1600, 1700, jusqu'à 1800. Et ensuite, on a d'autres documents, par contre, qu'on n'a pas amené aujourd'hui, mais à partir du début du XXe siècle, là, c'est très documenté, les gens ont été plus disciplinés, et c'est très documenté, on a quasiment tous les documents depuis le début du XXe siècle. Et donc, ce tir au pape Ogaï, c'est quasiment jamais arrêté, sauf pendant les pestes, les guerres. Alors, bien sûr, il y a des arrêts de plus de 20 ans, hein, les grandes guerres de l'époque. Mais il y a toujours eu des gens pour le reprendre, il y a toujours eu des Livois pour dire, on va continuer ce tir au pape Ogaï. Et le dernier arrêt qu'on a tous connu, c'est le Covid. Pendant deux ans, on n'a pas tiré le pape Ogaï. C'est le dernier arrêt qu'on a eu. Sinon, après, nous, de mémoire de vivants, depuis l'après-guerre, depuis 1950, on ne s'est jamais arrêté. Sauf en 2020 et 2021. Voilà, donc ça, c'est un peu d'histoire. Bon, on pourrait en parler longtemps, mais c'est un peu d'où on vient. Voilà, là, on sait d'où on vient. Alors, c'est quoi cette pratique du tir, bon, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, du coup, et même pour les autres, hein. Donc, aujourd'hui, alors, on tire sur ce qu'on appelle un pape Ogaï, un perroquet. Alors, pourquoi c'est un perroquet? Alors là, on peut toujours imaginer plein de raisons. Ça a toujours été un perroquet dans les statuts, ça a toujours été un pape Ogaï, un perroquet, un pape Ogolt, un vieux français. C'était un peu l'oiseau qui venait d'ailleurs, peut-être le démon, le maléfice, on ne sait pas trop. Voilà. Bon, on peut imaginer plein de choses. Le nôtre, il fait 4 kilos, président ?
4 kilos et demi. 4 kilos 635 à la dernière pesée.
Et voilà. Et donc, il va vous expliquer, je vais lui laisser la parole, il va vous expliquer vraiment comment ça se passe, parce que c'est lui qui le fait. Donc, cet oiseau, il est juché en haut de mât, 40 mètres. À qui comproche, comme on dit chez nous. Et voilà, et donc je laisse Jérôme, il va vous expliquer en détail, il va vous montrer comment on fait aujourd'hui pour ajuster l'oiseau sur son mât.
Oui, donc du coup, donc ce fameux oiseau, donc c'est un oiseau, donc là vous avez le retraité, qui a participé à peu près 80 ans, Donc là, on l'a mis à la retraite, parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a une grande fissure, il s'est ouvert en deux. Donc, bon, notre grande tristesse, il a fallu qu'on le mette à la retraite, parce qu'il ne pouvait plus faire ce pourquoi il était fait. Donc c'est un oiseau qui est fait aujourd'hui en ormeau, une pièce de bois massif, et qui est bardée d'acier sur toute la surface, avec des ailes en acier et un bec en acier. Voilà, vous avez un trou d'à peu près 3 cm de diamètre, qui est droit, normalement, à l'origine, mais au bout de 50 ans, il devient conique, évidemment, parce que forcément ça travaille. Donc, et cet oiseau, il est planté sur un mât. Donc c'est un bout de mât. Donc à l'origine, on avait évidemment un mât de 45 mètres, qui a été recoupé d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de 45 mètres, mais aujourd'hui il fait plus 42 ou 43 mètres. Quand il est parti à Pau, parce qu'on a fait un papouaï à Pau, sauf que le mât, il ne rentrait pas dans le wagon. Donc ils l'ont mis dedans, ça dépassait de 2 mètres, mais ils ont levé 2 mètres. Voilà. Et maintenant, on tire sur un mât de 42 mètres à peu près. Voilà. Et donc du coup, avant, on tirait sur un mât, et l'embout était fixé au mât à demeure. Sauf que, il y a quelques années, on a été embêté sur ce mât-là. Il vieillissait, en fait. Du coup, on a fait un morceau de mât rapporté. Si on a un problème, on l'a toujours à disposition. Il est toujours entretenu avec l'oiseau. Donc il travaille de la même façon. Voilà, donc les bois, ils sèchent de la même façon et ça évite d'avoir de mauvaises surprises. Voilà, donc le principe de montage, c'est on a sur le terrain de foot du village, on a une buse qui est encastrée dans le terrain de foot qui fait 2 mètres de profondeur. Et on vient y planter ce mât. Voilà, donc on le lève aujourd'hui avec des anigènes de levage. Voilà, donc là vous avez le mât qui est mis en position. On le met à l'aide d'anigènes de levage et on l'entoure entièrement d'une chèvre en bois, qui a été refait d'ailleurs en partie cette année, parce que malheureusement elle aussi elle a vieilli. Voilà, donc il est entièrement fixé. Il est aubané à l'aide de 4 câbles qui sont plantés en force dans le terrain. Et une fois que ce mât et cette chèvre est mis en place, on implante les 2 autres mâts, donc le mât des petits et le mât des moyens. Voilà. Alors là, vous avez l'oiseau, donc ça c'est l'oiseau des petits qui est planté, avec décoré avec une pivoine. C'est, pour nous aussi c'est traditionnel. D'ailleurs, un archer qui touche la pivoine, ça porte chance. Parce qu'il y a certains archers, des fois ils arrivent à casser l'aile. Donc ça c'est un peu moins de chance, parce que l'oiseau ne tombe pas.
Donc peut-être que ce qu'il faut préciser, Jérôme, c'est que l'oiseau, donc, pour ceux qui... Voilà. En fait, l'oiseau, il est enfoncé à coup de masse, celui qui tape, il est costaud.
Alors, il faut à peu près 15 coups de masse, voilà. Même 3 kg.
Il est enfoncé en force dans ce bout de mât. Et ce que dit Jérôme, c'est qu'avant, donc, on n'avait pas un mât comme ça, amovible, c'était le mât qui était stocké le long de l'école. C'était avant, aux intempéries, etc. Et le jour où on voulait monter le mât, ben, le machin, là, il était coupé, il était... trempé, il était truc. Alors bon, parfois, il y avait des montages qui n'allaient pas du tout. C'est-à-dire que l'oiseau était trop grand. Et quand il est trop grand, chaque fois qu'on le touche, hop, il retombe. Il retombe. Parfois, une année, on est au moins 2 ici dans la salle à l'avoir vu. Comme il était abîmé, on a mis du sparadrap, on a coincé avec du sparadrap. Et là, on est resté toute l'après-midi au pied du mât et on n'est jamais arrivé à le faire tomber. Parce qu'effectivement, il était coincé avec du sparadrap. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jérôme, puis c'est un peu son métier, et c'est ajusté vraiment à la perfection. Et du coup, l'oiseau, bon, on va voir des photos après, mais chaque fois qu'il prend l'impact, il monte un peu le long de ce trou-là. Enfin, au début, il se décoince, et puis après, il monte petit à petit, jusqu'au moment où il se casse la fibre. Donc, alors, ça c'est le mât dans l'oiseau sur son mât, ça c'est le mât vu d'en bas, c'est impressionnant quand même. Hein. Donc le mât est télescopique, il est monté sur poulie, donc quand il est tout à fait rond, il fait 40...
Aujourd'hui 42 mètres.
À qui comprend, cher. Il y en a qui disent que c'était la hauteur de la cathédrale de Rieux, mais presque du clocher, mais presque, presque. Peut-être que les anciens, ils tiraient à la hauteur du clocher.
Peut-être.
Donc, ensuite, le matériel. Donc, la spécificité, première spécificité, tir à la verticale. Deuxième spécificité, on tire donc sur un papogan qui est affiché. Alors, au tout début, on lit sur les parchemins anciens, en fait le papogan était en bois, mais il se cassait. C'est-à-dire chaque fois qu'ils le touchaient, ils en coupaient un morceau. Et c'était le dernier qui touchait, le dernier morceau qui restait, qui était roi. Aujourd'hui, il ne se casse pas. Celui qui est roi, c'est celui qui arrive à le faire tomber de son bain. On en reparlera après. Donc, troisième spécificité, les arcs. Voilà, donc Jérôme.
Donc, c'est des arcs qui, à l'époque, étaient monoblocs, en if, en frêne, voilà, en sèvre. Il y avait plusieurs bois utilisés. Donc, c'est effectivement des arcs de l'époque. Donc, c'est un savoir qui était connu encore il y a 50, 60 ans dans les villages. Aujourd'hui, malheureusement, ça, on ne sait plus le faire, pour le moment, précise, parce qu'un jour, on pourra les refaire. Mais on a encore quand même quelques vieux arcs droits. Donc nous, le principe est que tout archer doit tirer avec le même matériel, pour que les chances soient équivalentes. Voilà, il n'y a pas de choses à gagner financièrement. Donc le but est de tirer au papouvet tous les ans, c'est tout. Donc on a des arcs anciens qu'on conserve précieusement. On tire encore un petit peu, hein. Mais il faut se rendre compte que aujourd'hui on travaille sur un ordinateur, on a moins de force qu'eux. S'il y a des archers dans la salle, on a testé des arcs à 28-30 kg. C'est l'équivalent d'une barre de fer, clairement. Hein. Donc nous aujourd'hui on serait absolument incapable de tirer avec ça. Donc ils avaient beaucoup de force, donc nous beaucoup moins. Aujourd'hui on tire avec des arcs qui font entre 35 et 40 livres, donc on va dire entre 17 et 20 kg. Voilà. Donc ça c'est les arcs qu'on avait à l'époque.
Avec des câbles vélo, avec des câbles en acier.
Avec des câbles en acier, ouais. Qui font beaucoup de bien aux doigts. Bien sûr, il n'y a jamais de séquelles là-dessus.
Et aux bras non plus.
Aux bras non plus. Donc des arcs d'enfants, hein, c'est la même chose. Donc ça, moi, c'est un arc qui est dans ma famille depuis 100 ans à peu près. Il était bleu et rouge à l'époque, maintenant bon, il est dans mes couleurs. Et voici des choses, moi j'ai tiré avec ça quand j'étais petit. Ben, mon fils aussi a fait la même chose. Donc c'est des choses qu'on conserve jalousement, et bon, c'est une des choses qui fait que la rue, on tire encore le papouvet aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on a été obligé de passer sur des arcs monoblocs, donc c'est toujours des arcs d'archerie, donc c'est des arcs droits, voilà. En une seule pièce, pas d'assemblage, pas d'aide, pas de poulie, pas de quoi que ce soit. Donc ça, c'est des arcs qui sont faits au Canada, c'est des longbows. Voilà, c'est des arcs qu'on a trouvé les plus simples possibles, qui puissent être abordable aussi, puisque bon, il faut que tout archer puisse tirer avec un arc, donc il faut que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est des arcs qui sont fournis par la compagnie et qui sont identiques pour tout le monde.
À une période, ils achetaient dans les années 70 des arcs à la manufacture de Saint-Étienne et des arcs en métal, en acier. C'était pas mal ça non plus. Quand tu tirais, ça faisait claquer comme ça, mais il fallait être.
Faites au solide.
Et donc, ça c'est l'arc, et puis alors, donc déjà, la première difficulté, utiliser des arcs qui n'ont pas de viseur, etc., qui sont un peu durs quand même. Et puis alors, ensuite, autre difficulté qu'on se rajoute, parce qu'on s'en rajoute plein, c'est les flèches.
Oui, donc les flèches, hein. Donc, à l'époque, elles étaient faites avec, alors, on s'est dit, avec du sangouin, c'est une espèce de petit arbuste qui pousse le long de la rise. On aime bien la rise aussi. Mais plus vraisemblablement, c'était des flèches qui étaient faites en frêne, voilà, que nous on faisait aussi jusque dans les années, on va dire jusque dans les années 2000, où on fabriquait entièrement, c'est-à-dire qu'on achetait des planches, où on faisait débiter des planches, on faisait des fûts en bois, et ensuite on faisait la totalité des flèches. Aujourd'hui, on a à peu près entre 600 et 800 flèches à fabriquer par an. Donc c'est-à-dire que c'est des flèches cassées par les archers, ou des nouveaux archers, etc. Donc du coup, vu la quantité de flèches, aujourd'hui on fait fabriquer des fûts en bois, c'est des fûts d'archerie, voilà, qu'on reçoit en monobloc, et ensuite qu'on travaille, où là, après on y met notre pâte, donc on coupe des plumes de canard. Voilà. Donc d'ailleurs, si vous avez des plumes de canard, on est intéressé. Je fais un peu de plumes, mais on est à la recherche de plumes de canard. Voilà, on coupe des plumes, on les affine, et ensuite, donc du coup, on vient les poser dans des entailles. On les colle. Donc, à l'époque, c'était collé à la colle à chaud. Aujourd'hui, on les colle à la colle, une colle contact, une colle néoprène. On a un peu de ficelle en haut en bas, un peu des touffes de plombier sur la partie haute. On taille les trois plumes, qui ont chacune un sens. Une gauche, une droite, une milieu. Je vous ferai tester tout à l'heure pour voir si vous arrivez à trouver le sens. Et ensuite, au bout, chose qui fait souvent peur aux gens, Vous avez un petit embout de fer de 4 cm qui fait que quand la flèche part et qu'elle tape l'oiseau, elle a un impact réel. D'où sa vélocité, sa force. Voilà. Donc il faut savoir, il faut à peu près une heure par flèche, du début jusqu'à la fin. Parce qu'une fois qu'elle est comme ça, après il faut la peindre. Voilà. Une fois que vous avez votre flèche peinte, voilà, il faut compter à peu près une heure du début jusqu'à la fin, par flèche. Donc, c'est pour ça que quand on les a, on fait attention quand même. On essaie de ne pas trop les casser.
Donc, Jérôme en parlait tout à l'heure, son arc, il a parlé de ses couleurs. En fait, chaque archer peint les flèches à ce qu'on appelle à nos couleurs, à ses couleurs. Entre, j'ai des couleurs depuis que je suis tout petit, j'ai toujours les mêmes flèches, les mêmes couleurs. Et aucun archer n'a les mêmes couleurs. Et du coup, on sait reconnaître la flèche à qui elle est. Et vous voyez, sur le stade, dans nos parcours, nos flèches à l'intérieur, il n'y a aucune flèche qui a les mêmes couleurs. Et ce qui nous permet de retrouver notre matériel déjà quand on va tirer le paperoy. Parce qu'en fait, donc, j'ai une photo après, je crois. Bref. Donc en fait, on est tous ensemble au pied du mât, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc aujourd'hui, on est plus de 100. 110, 120, 130, 140, voilà. On tire tous ensemble sur l'oiseau dont on a parlé tout à l'heure, et il faudra plusieurs dizaines, même des centaines d'impacts, en général 650 à 200 impacts, sur cet oiseau, pour qu'il finisse par se casser la figure. Mais on va tirer pendant une heure, deux heures, trois heures, ça dépend hein, des années. Et le dernier qui le touche, la dernière flèche qui touche l'oiseau avant de tomber, est désignée roi. Alors comment vous savez que c'est le roi? Comment on sait que c'est bien le roi? Bon, mais déjà, on sait que c'est bien le roi parce que on va repérer la flèche, on va la retrouver quand elle va tomber. La flèche qui a, la dernière flèche qui a touché l'oiseau. Et puis comme Jérôme a dit tout à l'heure, c'est pas une compétition, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Avant on croyait qu'on serait exempté d'impôts, mais on n'est pas exempté d'impôts, on n'est pas comme ça. Et donc du coup, c'est pas réellement une compétition, tout le monde a envie d'être roi. Bon, moi je l'ai dit deux fois. Tout le monde a envie d'être roi, mais c'est pas une compétition. Quand on dit c'est moi qui ai touché l'oiseau, c'est que réellement on est persuadé d'avoir touché l'oiseau. Et quand, surtout, ce qu'on sait, c'est qu'on ne l'a pas touché. Ça, on en est sûr. Parce que dans une après-midi, alors lui, moi maintenant à l'âge que j'ai, je vais le toucher 3 ou 4 fois dans l'après-midi. C'est-à-dire à 3 heures, je vais le toucher 3 fois. Donc, la probabilité pour que je le touche au moment où il tombe, elle est extrêmement faible. Voilà. Mais du coup, voilà pourquoi on peint les flèches, chacun a une couleur, on ne se concerte pas, mais il y a tellement de combinaisons possibles qu'il n'y a aucune flèche qui soit dans la même couleur.
Après, on a mis un plumier en place qui représente toutes les couleurs de flèches de tous les archers. Donc s'il y a un nouvel archer, il peut aller voir ce qui est fait pour être sûr qu'il ne reproduise pas la même graphie sur les flèches.
Et donc tout à l'heure, Jérôme a parlé de, je ne sais plus à quelle occasion, de l'oiseau des petits. En fait, depuis 1922, c'est pas si vieux. Ça fait combien ça? Ça fait 100 ans, quoi.
Ça fait 100 ans.
Une centaine d'années, nos anciens ont décidé de créer, de faire tirer au paperoy les enfants. Jusque-là, il n'y avait que les adultes qui tiraient. Il n'y avait pas ça à l'époque, ils étaient une vingtaine. On a des photos hein, du début du XXe siècle. Les mecs en costume du dimanche, le chapeau, en tenue de truc, et puis ils étaient une petite quinzaine, une petite vingtaine à tirer le paperoy. Et donc, c'était à l'époque où ils ont fait ce livret-là. Donc on peut penser que c'est une époque où il y a des gens qui ont essayé de remettre de la dynamique, d'ailleurs c'est marqué là-dessus, remettre de la dynamique sur une tradition qui était un peu en train de se casser la figure dans les années 20. Et donc ils ont créé des sections pour les enfants. Donc aujourd'hui, il y a des enfants de l'âge de 6 ans à l'âge de 12 ans qui tirent sur un oiseau qui est à 7 mètres de haut, à peu près, qui est comme proche. Hein. Et les adolescents de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans qui tirent sur un oiseau qui a une vingtaine de mètres de haut. D'ailleurs, c'est celui-là, une fois, il y a quelqu'un qui a cassé l'aile. On n'en parle pas trop parce qu'il est dans la salle, donc. Voilà, donc aujourd'hui, il y a en gros environ 80 enfants qui pratiquent le tir au paperoy, une cinquantaine de petits.
Oui, 60 petits, une vingtaine d'adolescents.
Une vingtaine d'adolescents. C'est vrai qu'à l'adolescence, souvent, il y a tout un tas d'activités qui sont proposées. Mais malgré tout, tous les ans, on a des nouveaux adolescents qui arrivent à l'âge de 18 ans et qui viennent intégrer la compagnie. Alors, Jérôme, avant de vous parler deux mots de... Alors, il y a certains dans la salle qui connaissent bien l'histoire, donc ne te trompe pas, Jérôme.
Je ne sais pas dire de bêtises. Accolé ou jumelé à la compagnie des archives du Papourey, il y a un groupe folklorique qui s'appelle les Archéons del Papourey, donc qui a été créé en 1965. Voilà, donc le souhait c'était de faire participer un petit peu tout le village, les gens qui ne voulaient pas spécialement tirer. Voilà, ça faisait aussi participer donc les filles, les garçons, donc les femmes et les hommes évidemment. Donc voilà, c'est un groupe folklorique, donc sa vocation était de danser et de chanter aussi, par ricochet. Donc qui a bougé pas mal, parce qu'ils sont partis au Portugal, je crois. Voilà, ils ont fait un petit peu le tour de la petite Europe. Ils se sont produits au Grand Fénétra à Toulouse. Voilà, ils ont fait des grosses sorties où il y avait un pic d'activité dans les années 70-80, où là ça bougeait pas mal, 90. Aujourd'hui, ben, le groupe existe toujours, voilà, cette photo elle a à peu près 4 ou 5 ans. Donc ben, elle se produit quasiment que pour les fêtes du Papourey. Sauf demande, hein. Si on nous demande d'aller quelque part, on y va quand même. Voilà, donc on danse, on a quelques danses typiques rigoises, dont l'arigossan, qui est un petit peu la danse du village où on célèbre les arcs et les sabots. Voilà, et on a quelques danses, des polkas piquées, des polkas rivoises. Voilà, le but étant de faire vivre un petit peu plus le village, d'amener un petit peu de couleur, de joie. Voilà, on se réunit à peu près une dizaine de fois par an pour répéter. Donc on oublie d'un papouveille à l'autre les danses de l'année passée, donc il faut les apprendre tous les ans, c'est aussi sympa. Voilà, donc c'est les archéros del papouveille qui permet un petit peu tout le monde de pouvoir participer.
Ouais, c'est dans les années 65 en fait que là aussi c'est pareil, c'est une période où il y a des gens qui ont pris des directions de l'époque où les papis venaient tirer, enfin je dis les papis, c'était pas les papis, mais qui venaient tirer avec leurs chapeaux et leurs costumes et les images. Dans les années 60, donc il y a eu tout un tas de modifications, notamment la tenue. Voilà. Aujourd'hui, on tire le papouaï avec chemise blanche, cravate jaune, pantalon noir, le béret. On a une tailleule aussi autour de la taille. Ils ont créé à l'époque des chars, ça n'existait pas avant, vous allez voir, on va regarder les défilés. Ils ont créé des chars pour améliorer, on va dire, le visuel et puis créer un peu plus de couleurs, etc. sur la fête. Et ils ont créé ce fameux groupe folklorique. Voilà. Donc tout ça, c'était au début des années 60. Donc aujourd'hui, le tir au papouaï, et depuis longtemps d'ailleurs, parce que déjà dans nos statuts, il était question de faire la fête, de festoyer. Donc on continue la tradition aussi de la fête. Alors le vendredi soir, alors ça c'est extrêmement important pour nous, et c'est complètement lié à la tradition, et dans nos statuts de celle de 1585, on en parlait déjà. Le roi, qui a été désigné à l'année N de Puzol, ben, il doit recevoir des archers et leur fournir des fifres, des tambours, du gâteau et du vin blanc pour fêter le roi. Et donc, et les archers viennent lui faire ce qu'on appelle la sérénade. Donc, depuis les années 20, a été créée une ritournelle qui s'appelle le Tantiro. C'est une petite ritournelle très simple à jouer au pipeau. Et donc, depuis ces années-là, on a un groupe d'enfants qui jouent cette ritournelle et qui viennent jouer, les voilà, les tambours, les tambourins et les pipeaux, qui viennent jouer la sérénade au roi. Alors, aujourd'hui, il y a le roi des petits, le roi des moyens, et ensuite le roi des grands. On fait trois sérénades le vendredi qui sont effectivement réservées. C'est une partie de la fête qui est un peu plus intimiste, qui est un peu réservée aux archers, quoi. Aux archers, aux familles des archers. Voilà, dans ce groupe de joueurs de fifres, au départ c'était que des garçons, des petits garçons qui jouaient, entre 6 et 14 ans, on va dire, hein, des petits garçons et des ados. Ensuite, il y a eu, dans les années 70, c'était pas bien vu. C'est-à-dire que participer au papouaï, c'était pas bien vu. Alors jouer des fifres, c'était encore moins bien vu. Donc, il y a eu une grosse baisse, puis petit à petit, en faisant intervenir au niveau des écoles, etc., en faisant de la pédagogie, on est arrivé à remonter des groupes de fifres. Mais aujourd'hui, les petits garçons ont été remplacés par les petites filles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, petit à petit, il y avait des garçons, puis des filles. Et aujourd'hui, il y a des filles et parfois deux garçons qui qui s'aventurent dans le groupe de filles. Mais c'est vachement sympa d'ailleurs, parce qu'elles sont adorables. Et ça me fait énormément plaisir de venir participer à la fête à Joie du Fifre. Voilà. Dans les sérénades, vous voyez, là, il y a le roi, c'était il y a longtemps, c'était avant le Covid, ça, non?
C'était roi avant le Covid, mais fêté après.
Ah voilà, c'est ça, parce que lui, il a été roi avant le Covid et fêté à la fin du Covid. Donc ça, il a été roi 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Donc voilà, tous les deux, vous voyez, il y a quand même pas mal de jeunes filles qui font la sérénade au roi. Alors, j'accélère un peu, parce que je ne sais pas combien de temps on a, mais tac, ça, c'est encore la sérénade au roi. Donc Jérôme va vous parler du tir à la cible, parce qu'en fait, on a dit qu'on faisait le tir vertical, mais pas que. Et depuis l'origine, il y a aussi le tir à la butte, le tir à la cible pour désigner d'autres personnages de la compagnie. Je vous laisse la parole à Jérôme.
Oui, du coup, nous, dans notre planning, donc le vendredi c'est sérénade, samedi matin, aujourd'hui, c'est le tir à la cible de toutes les sections. Les petits, les moyens et les grands. Voilà, on a mis ça en place parce qu'ils voulaient participer exactement à ce que nous on faisait. Donc on a recalé un petit peu les dates et les horaires auxquels on participe. Donc le tir à la cible, on a les tout petits qui apprennent, donc eux ils ont 3, 4, 5 ans, eux ils tirent sur une cible à 5 mètres, c'est juste pour s'amuser. Ensuite, de manière un peu plus officielle, on a les petits qui tirent, donc eux ils tirent sur une cible de 80 cm de diamètre, où on peut faire une dizaine de points, de 10 à 1. Ils tirent à 10 parts, ils ont 4 flèches pour faire le meilleur score. Ensuite, on a les moyens qui tirent à 15 pas, qui ont 8 flèches pour faire le meilleur score, et les adultes qui tirent à 20 pas. Pour faire exactement le meilleur score. Donc les deux meilleurs scoreurs aujourd'hui, c'est le connétable qui est le meilleur et l'huissier qui est le second. Donc ils sont désignés connétable et huissier après le tir au pape au gagne. C'est-à-dire une fois que l'oiseau est tombé. Parce qu'on peut être connétable le matin, mais le lendemain on tire au pape au gagne, mais bon, du coup on n'est plus connétable parce qu'on préfère être roi que connétable quand même. Il y a plus de chance. Voilà, donc. Aujourd'hui, le connétable c'est le premier, l'huissier c'est le second. Donc ça, on a fait un petit peu évoluer quand même.
Auparavant, l'huissier c'était le dernier et il se chargeait de faire payer les amendes, etc. dans la compagnie. Donc,
ouais, on a proposé de le remettre en place, ça, mais ça ne plaît pas trop. Ouais. Parce que ça donne un peu de travail.
Comme le connétable est censé remplacer le roi, si le roi est malade ou si le roi est absent, etc.
Ouais, c'est quand même un rôle important hein, parce qu'aujourd'hui, nous on le maintient. Bon, c'est un petit peu plus folklorique, on va dire, mais on a connu il y a. Une dizaine d'années où le roi s'est blessé pendant le tir, et en fait le roi cadence le tir. Donc il faut toujours qu'il y ait un représentant qui puisse cadencer le tir. Donc le roi n'était pas là, c'est le connétable qui a pris sa place pour pouvoir cadencer le tir. Donc c'est quand même un rôle pas si anodin que ça.
Alors, je fais un petit arrêt sur l'image sur cette photo, parce qu'en fait, là, on a vu la spécificité de l'oiseau, on a vu l'arc, on a vu la flèche, et là, une autre spécificité pas des moindres, c'est la façon dont on tient la flèche. En fait, on tient la flèche, vous voyez sur la photo, entre le pouce et l'index, comme ça, et on vient appliquer la tension sur la corde. Alors ça, c'est extrêmement difficile. C'est pas du tout pertinent comme façon de faire. En fait, les archers, aujourd'hui, ils tirent sur la corde, et la flèche est coincée sur la corde, ils tirent la corde avec deux doigts et ils lâchent. Nous, on tire sur la flèche. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Et comme disait Jérôme, nous, notre rôle, c'est de perpétuer une tradition. Donc on a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça. Alors c'est complètement pas du tout efficace. C'est complètement pas du tout efficace. C'est-à-dire quand on tire à la cible, en fait la flèche part comme ça, l'autre part comme ça. À l'époque, comme les arcs étaient extrêmement durs, nos anciens ils tiraient à cloche. Ils envoyaient la flèche comme ça. Et elle allait tomber sur la cible.
Ou sur la top à côté, oui.
32 mètres plus loin parce qu'il tirait plus loin que nous. Voilà. Donc on fait quelques points. On arrive à mettre quelques flèches dans la cible, mais on n'est pas très performant. C'est pas le problème. Le principe, c'est de maintenir la tradition. Après, pour tirer en vertical, c'est un peu plus performant.
Oui, et c'est un peu plus efficace.
C'est un peu plus efficace. Mais à l'horizontale, c'est pas. Voilà. Mais par contre, on le voit bien sur l'image, c'est comme ça qu'on tire le bambou. Hein. Et on apprend aux enfants, quand ils sont tout petits, alors, au début, ils font un peu comme ça, quoi. Là, ça n'est pas juste un entre-doigts, parce qu'il faut y arriver. Il a grandi, lui, depuis, hein. Il est plus costaud. Hein,
aujourd'hui, il a
20 ans. Ouais, voilà. Mais vous voyez, on leur apprend tout petit à. C'est pas facile pour eux, mais bon, voilà. Donc, Donc, allez. Donc, le samedi après-midi, du coup, nos fêtes, elles se déroulent comme ça. Le vendredi soir, donc, c'est la date, samedi matin, tu as la cible. Le samedi après-midi, c'est réservé aux enfants. Donc, il y en a du filet des enfants. Parce que ça, c'est aussi traditionnel chez nous et c'est obligatoire. On défile de la cathédrale jusqu'au pas de tir, qui est le stade à Rieux. Et ça, ça fait partie intégrante de notre devoir d'archer, c'est de défiler de la cathédrale vers le stade.
Oui, même si un archer est en retard, il doit partir de la cathédrale.
Voilà. Dans les tout petits, même quand ils sont petits, que l'arbre qui touche par terre et qui ne peut pas marcher, parce que l'arbre qui touche par terre, ben, il défile. Voilà. Eux aussi, ils ont grandi. Hein. C'est la fille. Ouais, ils ont grandi. Voilà, donc les petits archers qui arrivent au pas du tir, les fameux tentires qui défilent là. Et depuis les années 60, qu'on a vu tout à l'heure, 65, 68, les archers sont accompagnés avec des chars. Avant, le roi, il défilait avec son sceptre, et puis il se marque, et tout le monde défile à pied. Là, aujourd'hui, on a 6, 7 chars.
7 chars.
7 chars, dont certains sont réservés pour notamment celui-là, pour le roi. Et là, on voit le roi des petits et des moyens qui vient défiler sur son char. Alors, ça, c'est le tir donc, des petits, voilà, qui sont eux aussi tous ensemble au pied du mât. Et là, il faut leur apprendre la discipline, le respect, l'entraide.
Ah, c'est là où tout commence, hein, parce que, bon, ils apprennent un petit peu à tirer. Donc, vous avez ceux qui sont devant, en général, qui ont 11-12 ans. Ils ont quand même pratiqué, donc ils sont quand même pas mauvais. Et derrière, vous avez les tout-petits qui viennent de démarrer, où là, ils arrivent à peine à l'oiseau. Mais il faut quand même qu'ils apprennent à tirer tous ensemble, à se protéger, à se surveiller, faire attention où on amène sa flèche, à toujours viser l'oiseau.
À partir de ce moment-là.
C'est ça. Il faut vraiment faire attention. À partir de ce moment-là, c'est l'apprentissage pour pouvoir tirer au grand.
Alors, les tout petits, ceux-là, ils tirent la cible, et puis après, ils ne viennent pas au pied du mât parce qu'ils sont trop petits. À 7 ans, à peu près, ils commencent vraiment.
Ouais, en dessous, on demande de ne pas le faire.
Voilà, c'est une autre image des petits tout.
Ouais, là, vous avez le bouclier qui protège, parce qu'aujourd'hui, on s'adapte un petit peu, on a le tir. Le plus important, c'est que le tir il soit pérennisé, qu'il continue. Donc aujourd'hui, on a mis en place, vous avez des adultes qui sont au milieu avec des boucliers en bois. Voilà, qui protège les flèches qui peuvent revenir sur eux, sur les petits. Parce que certains, ceux qui sont devant, savent se débrouiller. Ceux qui sont derrière, bon, ils sont encore pas autonomes là-dessus, donc on ne veut pas qu'ils prennent trop de risques. Donc voilà, aujourd'hui, on a mis des boucliers en place pour que il y ait le moins de risques possible.
Donc voilà, juste quelques images, je continue, j'accélère, ça c'est les moyens. Plus costaud, hein, les moyens. Les moyens à 18 ans. L'oiseau, il prend mal parce qu'il est quand même mètre de haut. D'ailleurs, il faut qu'on le mette plus haut.
Oui, l'oiseau, on l'a refait, on le refait à peu près tous les 10 ans pour les moyens. Parce que soit on casse une aile, on casse un bois, on casse toujours quelque chose. Ils ont quasiment autant de force que les adultes, sauf qu'ils tirent deux fois plus bas.
Donc, j'accélère. Donc, le dimanche matin, le samedi soir, on va se coucher de bonne heure parce qu'à 9h, on a la messe. Voilà, à 9h, on a la messe. Alors, ça, c'est partie intégrante de notre tradition également. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette tradition, dès son origine, elle était très liée avec la religion. C'est pas une compagnie religieuse, hein, mais on a gardé ce respect pour la religion. Et donc le dimanche matin, c'est la messe du Papogai. Depuis, on va dire maintenant, une trentaine d'années, les archers viennent en tenue, avec leur arc, leur flèche, fleurie, à l'église. Il y a également, vous allez le voir, tout un tas de personnes qui sont costumées au Moyen-Âge, puisqu'on a depuis là aussi les années 80. Alors, avant, il y avait le groupe folklorique dont vous a parlé Jérôme, avec deux sections, une section Moyen-Âge, avec des gamins qui étaient habillés en Moyen-Âge, voilà, ou des ados même, des adultes, et la section 19e. Cette section Moyen-Âge n'existe plus depuis les années 90 à peu près.
Ouais. On a toujours les danses en
tête. Mais on a gardé, mais du coup, on a mis en place, et il y en a dans la salle, là, un atelier couture. Avec des costumières qui fabriquent des costumes et les personnes qui le désirent peuvent venir se faire prêter un costume pour défiler le jour du Papogai et notamment venir à la messe en costume ou se fabriquer elles-mêmes aussi ou eux-mêmes des costumes. Ça permet à tout un tas de gens de participer. Donc voilà, cette messe du Papogai, elle est chantée en Languedoc par la chorale, il y a quelques éléments dans la salle aussi, la chorale de Rieux qui participe. Et qui chante cette messe à Languedoc. Avant, elle était dite aussi en Languedoc. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver des prêtres qui puissent la dire en Languedoc. Donc, c'est extrêmement coloré, du coup, avec tous ces costumes. Hein, voilà, c'est la messe, l'église en général est pleine, la cathédrale. Voilà, et le roi, bien sûr, est au premier loge. Enfin, là, les rois sont au premier loge, le roi des grands, des petits et des moyens. Et à l'arrière, le connétable et l'huissier sont aussi au premier loge avec la cour du roi. Donc, c'est un moment émouvant. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est à faire. Voilà. Donc, à l'occasion, on sort tous les ans le buste de Saint-Sébastien qui est ici, puisqu'on est la confrérie de Saint-Sébastien, et ce buste a été offert par la confrérie en 1620 et quelques à la cathédrale de Rieux. Donc, tous les ans, pour la messe, on sort le buste de Saint-Sébastien. Et parfois, on a l'honneur, et là c'était, je ne sais plus la date, d'avoir la messe qui est ordonnée par l'évêque, puisque l'évêque de Toulouse est aussi évêque de Rieux. Et donc, du coup, c'est arrivé une paire de fois que l'évêque vienne dire la messe le jour du Pape-Auvergne. Là, du coup, c'est un gros événement. Voilà, donc quelques photos de la messe avec tous les costumes, la chorale costumée aussi. Et là, c'est la sortie de la messe avec. Donc ensuite, dès qu'on est sorti de la messe, on est très occupé pendant ces trois jours de fête. On organise ce qu'on appelle les cérémonies officielles. Alors ça aussi, ça c'est un petit peu moins traditionnel du coup du Moyen-Âge. Mais ça a été mis en place petit à petit au fil des années pour diverses raisons. Et donc aujourd'hui, pendant ces cérémonies officielles, on va accueillir de nouveaux archers. Alors, on va vous expliquer un de mots comment on est archer ou comment on le devient.
Du coup, pour être archer à Rieux, donc ça c'est historique par rapport au statut, il faut être du village. Voilà, donc soit on est archer quand on est tout petit, du coup on est archer quand on est moyen, et on devient archer adulte à 18 ans. Donc là, on demande à ces jeunes-là de passer devant nous pour prêter honneur et respect au roi, et ensuite on leur donne accès au tir au pape Auvergne directement. Si on n'a pas pris ce créneau-là, il faut être faire une demande auprès du conseil d'administration, il faut être de Rieux, du village, ou avoir de fortes attaches au village. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est écrit dans les statuts, et que nous, on a remodelé en ayant de fortes attaches au village, puisque des fois, on arrive à Rieux, ou on est à Rieux, et à 18 ans, on s'en va, on quitte le village, mais on était archer, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le soit plus. Donc du coup, par exemple, on a un des chevaliers qui a été trois fois roi, qui habite à La Réunion. Voilà. Mais tous les ans, il revient à Rieux tirer le pape au Auvergne. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc pour être archer, il faut être soit archer depuis tout petit, soit habiter à Rieux, ou arriver à Rieux, du coup, habiter à Rieux, et faire une demande au sein du conseil d'administration. Et nous, on donnera notre avis sur le fait de pouvoir devenir archer ou non. Donc pour être archer, après avoir fait cette demande, c'est passer devant le roi. On donne un petit rouleau de statut qui édicte toutes les règles. Et l'archer qui se présente a deux papes au gagne pour prouver sa valeur et pour prouver qu'il honore vraiment le roi et la tradition. Voilà, donc le but, il n'y a rien à gagner. Il faut que les gens qui veuillent venir au papes au gagne et qui veuillent venir tirer, veuillent venir transmettre la tradition et ce qui se passe autour. Voilà. Que ça puisse être pérennisé dans le temps.
Oui, parce que d'où ça vient, ça, auparavant, c'était pas comme ça. Auparavant, ils étaient 15. Bon, voilà, tirer le pape au gagne. Ensuite, moi, ce que j'ai connu, alors je ne vous parle pas de ce que j'ai pas connu, mais ce que j'ai connu, c'est une période où, ça c'était les années 70, où effectivement, là aussi, ils étaient 15, mais en fait, les gens ne voulaient pas venir. Ça ne les intéressait pas de tirer le pape au gagne. Il fallait aller chez eux, taper à la porte, et ils te font venir, tirer le pape au gagne. Donc il y a eu une période vraiment creuse dans les années 70. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut faire venir du monde. Donc on faisait venir du monde. Mais par exemple, il y avait un copain qui voulait venir voir le pape au gagne, il venait voir le pape au gagne, on lui prêtait un arc, il tirait le pape au gagne avec nous. Ensuite, on a dit, bon, ben, écoutez, tous les jeunes qui veulent venir, ils peuvent venir. Donc on avait plein de jeunes qui venaient, surtout pour faire la fête, au départ. Pas forcément, ils ne connaissaient pas forcément la tradition, ils ne venaient pas en connaissance de cause, quoi, en fait. Et dans les années 90, là, on a senti le danger, parce qu'on avait des gens autour de nous, au pied du mât, qu'on ne connaissait pas. On ne savait pas qui c'était, en fait. Et on ne savait pas pourquoi ils étaient là, et eux, ils ne savaient pas pourquoi ils venaient non plus. Sauf si, le soir, ils savaient, quand il s'agissait de faire la blague. Et donc, on a mis en place des règles dans les années 90, dont vient de parler Jérôme. Aujourd'hui, celui qui veut venir tirer le papagaï, on lui explique la tradition, et il vient parce qu'il a envie de perpétuer la tradition. Et ça se passe très bien. Voilà. Donc, j'accélère. On remet les diplômes au roi de l'année passée. Ça, c'est Jérôme qui le fait. Voilà, là, c'est les nouveaux archers qui sont intronisés. Ça, c'était à l'époque. On remet les insignes au roi. Le diplôme, chapeau.
Ouais, un diplôme au roi. Petit.
Et une médaille. Une médaille. Qu'on garde précieusement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même qui l'ont donné. Et ensuite, il y a des spectacles, là, ça, c'était des lanceurs de drapeaux italiens qu'on a fait venir à deux reprises, enfin, il y a un petit spectacle le matin. Il y a surtout, et à chaque fois, ça c'est les costumes, et à chaque fois, une représentation, bien sûr, par les arcs des papagaïs, ça c'est immuable et obligatoire. Voilà. Alors, c'était la cour de l'ancien évêché de Lieu, qui est aujourd'hui indisponible parce qu'en travaux. Et on espère peut-être dans les années à venir, cet espace va être repris, rénové. Et on espère dans les années à venir pouvoir refaire des représentations dans ce cadre magnifique. Mais pour l'instant, on n'a plus accès. Donc, l'après-midi, c'est le défilé. Alors là, 300 à 350 costumes. C'est, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il faut venir. Surtout quand il fait beau, il fait toujours beau. Donc les gens, les costumes, on va dire locaux, du Moyen-Âge, on fait venir aussi des groupes qui viennent se produire, des groupes qui peuvent venir de la région proche. Alors on a des groupes occitans surtout, des fidèles, hein. On a des groupes fidèles qui viennent depuis plus de 20 ans, musique traditionnelle, des groupes qu'on vient de voir là, de musique médiévale. Là c'est une année, on avait une meute de chiens. Ça avait été folklorique, c'est le cas de dire. Voilà, donc on fait venir, à l'époque, c'était une fanfare qui venait. Alors, dans les années 70, c'était les majorettes, la clique de Carbone et les majorettes. C'était la clique de Carbone, hein, Montalais, la clique de Carbone, les archers terminés. Après, on a fait venir des bandas, c'était les bandas. Bon, dans les années 90, on s'est dit, voilà, quand même, on va essayer de faire un défilé quand même beaucoup plus respectueux de ce qu'on veut faire passer comme message, c'est-à-dire de la tradition. Donc aujourd'hui, c'est un défilé qui est très... Même ce genre de fanfare, on ne les fait plus venir. C'est plutôt des groupes comme ça, des groupes traditionnels, voire moyenâgeux. Bon, moyenâgeux, ça coûte très cher. C'est pour ça qu'il y en a mourir. Et voilà. Donc après, un petit groupe à la fin pour mettre l'ambiance, et, parce qu'il y a beaucoup de public, et pour réunir le public, mais voilà. Il y a eu des années où c'était, dans les années 70 ou 80, au début des années 80, c'était beaucoup moins axé, c'était moins bon que maintenant. Waouh, on a fait des progrès. J'ai choisi les photos, hein, parce que je savais
qu'il y avait.
Voilà, bon, voilà. On avait les chevaux du centre équestre de Rieux qui se produisaient jusqu'il y a 5 ou 6 ans.
Ouais,
5 ou 6 ans. Puis il y a eu un incident et du coup maintenant ils se produisent plus et plus.
En termes de sécurité, ça devient très compliqué.
Voilà le roi, là, c'est un magnifique roi qui habite à La Réunion d'ailleurs. La compagnie des archers avec ses emblèmes, les petits fifres, les archers, les chars, si, tous les chars. On amène le tonneau parce que traditionnellement, un archer, des fois il fait chaud. Donc, il faut quand même se désaltérer un minimum. Et la fameuse fougasse qui a toujours
été. Oui, parce que des fois on a fait.
Comme on voit écrit sur des documents anciens, l'ouvrager, c'était pas la peine de lui demander. Le jour du papagaï, il a amené les fougasses. Bon, aujourd'hui, il faut lui demander un peu. Voilà. Et donc, participent au défilé les officiels. On en voit un, il y en a un au fond de la salle, là-bas. Et puis, au milieu, c'est Madame le maire. Ça aurait pu être Monsieur le maire, mais c'est Madame le maire. Qui, là aussi, de façon ancestrale, hein, défile et on va voir, tire la première flèche, c'est-à-dire donne le coup d'envoi du tir au pas pourré. Bon, et puis à la fin du défilé, on met des groupes un peu plus. Voilà les costumes, voilà les costumes au pied du mât, voilà les archers qui sont prêts à en découdre. Et donc, le tir au pas pourré, je pense qu'on en a largement parlé.
Oui, oui, oui.
Si, alors, il y a eu un changement dans les années 90. Avant, l'oiseau, là, le dernier qui le touchait, il le faisait dégringoler, mais il tombait. Il tombait de 40 mètres de haut, et il venait se planter dans le sol. Il fait 4,5 kg. 4,5
kg.
Voilà. Jusqu'au jour où on a eu une frayeur, c'est-à-dire que l'oiseau est tombé à un poil de la tête de l'archer. On a dit c'est plus possible. Donc on a pris la décision, qui a été très controversée à l'époque, parce que c'était plus la tradition. On l'attache avec il est attaché avec une petite goupille, un filet, et donc il tombe, mais il est dirigé. Et comme pour les petits, les moyens, c'est pareil. Il tombe, il est dirigé. Et
il tombe dans une zone sécurisée.
Dans une zone sécurisée. Voilà. Et ça, ça a été des modifications. On en a fait des modifications. On a changé le mât de place, etc. On s'adapte, comme disait Jérôme tout à l'heure, on s'adapte pour notre but, c'est de maintenir la tradition. Donc dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut aller à l'encontre de ce truc-là, qui peut nous mettre en difficulté, on l'adapte. Donc, dernièrement, on a été obligé, et je vais passer la parole à Jérôme, d'adapter. Là, on voit une photo d'il y a 3-4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus, 6 ans, c'est vrai. Tu étais jeune, là. Donc voilà, c'est
oui, avant chaque début de tir, on demande à tous les archers de se recueillir une minute pour penser à tous ceux qui sont partis dans l'année ou historiquement qui sont partis, qui nous ont quittés. Voilà, nous, les jeunes, les anciens, tout est important. Donc voilà, on écoute ce qu'on nous dit. Donc quand un ancien nous parle, on l'écoute. Et du coup, quand il ne peut plus nous parler parce qu'il est parti, ben voilà, on se doit de penser un petit peu à tout ce qui ont fait l'histoire et ce qui fait qu'aujourd'hui on tire toujours le papogaï 400 ans plus tard. Quoi. Donc là vous avez voilà, l'implantation du pas de tir avec tous les archers qui n'ont pas la protection sur la tête. Donc vous avez Madame le maire qui tire la première flèche, c'est pareil, c'est historique. Le représentant.
Après elle s'en va.
Après elle s'en va, oui. Elle reste pas au pied parce que c'est dangereux quand même. Donc il tire la première flèche. Ensuite, on fait des tirs d'essai, parce que du coup, aujourd'hui, on est 130 au pied du mât. On tire tous en même temps. Donc 130, ça fait 130 flèches qui partent en même temps. Qui vont, si vous connaissez un petit peu le village d'Orieux, donc on a le stade et la rise qui part juste à côté, on tire vers la rise. Mais, il faut y avoir du vent. Et quand il y a du vent, pour celui qui s'occupe du tir, c'est bon droit. Donc on fait des flèches d'essai, dans les endroits extrêmes. On voit où tombent les flèches. Aujourd'hui, moi j'ai une oreillette avec des services de sécurité qui sont sur l'extérieur, qui nous confirment que les flèches tombent dans des zones sécurisées. Et quand ça c'est fait, voilà, on peut démarrer le tir en toute sécurité. Et du coup, dernièrement, il y a 2 ans, on a frôlé la correctionnelle, on va dire. On a eu, chose qu'on n'avait jamais eue depuis 20 ans, on a tourné le mât il y a 20 ans. Et on s'est dit un jour, si on a le vent de face, ça va être compliqué. Mais il y a 2 ans, on a eu le vent de face. C'est-à-dire qu'on a fait 2 volets de flèches et on a eu 9 blessés. Donc, j'imagine que c'est compliqué. On s'est adapté très vite, mais on a eu surtout un blessé grave qui a pris une flèche, voilà, qui a rayé la cornée, donc qui a tapé sur la cornette.
C'est des archers, hein, pour ceux qui...
Donc c'est des archers, c'est pas le public. C'est le public qui est toujours en sécurité.
Parce que les flèches qui montent, elles nous retombent dessus. Quoi.
C'est ça. Mais c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Pour nous, c'est normal.
Avant, on avait libéré. Hein,
c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, voilà, on a eu une demande de la mairie, on a eu une demande des services de secours. Et nous, on s'est dit, bon, c'est trop dangereux. Si un jour, en gros, ils nous disent, mais stop, arrêtez votre dinguerie, là, c'est plus possible. Du coup, aujourd'hui, on a une casquette noire de sécurité avec une coque. Et on a un masque de protection. C'est des EPI, hein, donc, qui évitent que si on prend une flèche dans l'œil, évidemment. Le masque peut être cassé et encore, mais au moins, on n'a plus de risque à cet endroit-là. Voilà, on peut toujours prendre des flèches sur l'épaule, etc. Ça fera des bleus, mais il n'y a pas de danger absolu. Voilà. Le principe est toujours de pouvoir tirer pas pour elle. Voilà. Alors, c'est pas ce qui nous réjouit le plus, hein, d'avoir ces choses sur la tête, hein, mais bon, demain, on pourra toujours tirer le paperet. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour les adultes et les moyens, et cette année, pour les petits, en plus des boucliers.
Voilà, parce que les flèches montent, donc, on tire sur un bois qui est à peu près 40 mètres, nos flèches montent à 80 mètres d'eau.
Oui.
On voit l'autre maintenant à 38, mais on monte à 80 mètres de haut. Et il y en a qui touchent le mât, il y en a qui touchent l'oiseau, il y en a qui touchent rien, mais qui sont, parce qu'il y a des archers qui sont très près du mât. Avec le vent, la flèche monte à 80 mètres, arrive en haut, le vent la ramène, c'est ce qui s'est passé il y a deux ans, et elle nous retombe dessus. Alors on se parle, attention à droite, à gauche, tout, au milieu, tout, on a des flèches qui nous tombent de la côté, jusqu'au moment où on ne la voit pas, parce qu'il fait, quand on est comme ça, la tête à l'air, un truc comme ça, ça ne se voit pas du tout.
Qui vient de s'engager.
On la voit quand elle est là, mais on ne la voit pas du tout quand elle est là. Et c'est comme ça que, qu'elle est blessée. Alors, on a eu quelques blessés ici, voilà, ici, ici, ici. Et le malheur, c'est là.
C'est ça. Voilà, aujourd'hui, on a décidé de protéger les yeux pour que...
Donc voilà, les archers, donc à l'époque, quand ils avaient que les verrés, il n'y a pas de photos, qui tirent tous ensemble. Donc, on tire 130 flèches, on en tire 20 chacun. Vite, vite, ça fait 2000. Ouais. 2000 flèches à peu près. Quand on a tiré 20 flèches chacun, on dit recherche. Enfin, c'est lui-là qui dit recherche. Et là, on va chercher nos flèches sur le stand. Comme on a chacun ses couleurs, on les reconnaît. Ou pas.
On se remet en place. Hein.
On se remet en place et on refait ça. Et ça dure 5, 6, 7, 8, 10.
Il faut que le parapluie tombe.
Le temps qu'il faut.
Il faut que le parapluie tombe. Il est toujours tombé. Sauf à tomber, on a fait ce qu'il fallait. Sauf tomber, on est revenu.
Il y a eu Bernard deux fois, trois fois, où il n'est pas tombé. Il a fallu qu'on revienne le week-end après, soit parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Alors, s'il s'est mis à pleuvoir, ça n'est pas la peine. Parce que ça, là, ça devient du... Ça, c'est du savon, ça, on ne peut pas le tenir, quoi, s'il pleut, on le tirer. Soit les années où il était mal embranché, mal fixé, et là, on ne pouvait pas le faire tomber. Et là, on revient le dimanche après, ou le 1er mai, machin truc. Et on met jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà,
c'est ça.
Voilà les archers plus du mât, voilà les archers, vous voyez, avec la façon de tirer dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, on met des gants quand même parce que ça fait mal au bout d'un moment. Enfin, ça fait mal de suite d'ailleurs. Donc, c'est pas au bout d'un moment. En fait, on se fait mal à deux endroits. On se fait mal ici et puis on se fait mal au bras. Hein. Quand le câble passe ici, contre le bras, on le voit, là, le câble il frôle le bras. Une fois, deux fois, trois fois, après ça gonfle, ça devient tout rouge, après ça saigne. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu de muscat, c'est pour ce... Voilà les flèches au pied qui tombent, donc on les récupère. Et voilà. Tac, tac. Et voilà, et à la fin, ben, il y en a un qui est désigné roi, c'est lui.
Voilà, c'est... donc là il y a le roi qui a sa flèche. Donc, en général, aujourd'hui, comme on est nombreux quand même, on a toujours 4, 5, 6 personnes du conseil d'administration qui surveillent la flèche qui va tomber.
Parce qu'on sait, il change de son, et puis après, des fois, il bouge un peu.
Il commence à sonner creux, et à ce moment-là, en général, quand il sonne creux, 2, 3 flèches, c'est terminé. Il tombe. Donc là, il faut vite surveiller. Donc, en général, le roi a une réaction naturelle, mais nous, voilà, on se doit de vérifier, d'être sûr. Donc, en général, une personne va récupérer cette flèche. Voilà, on va voir le roi, c'est ta flèche, oui. Voilà, on est d'accord, c'est bon.
Et là, vous voyez tous les impacts. Chaque fois la peinture saute, c'est comme ça qu'on les compte. La peinture saute à chaque fois qu'il prend un impact. C'est comme ça qu'à la fin, on arrive à compter 150 de tous ces impacts.
C'est pour ça qu'il faut le reprendre tous les ans.
Ouais. Et donc, quand le roi est élu, l'ancien roi donne les insignes, la cape, la couronne, la cape, le sceptre. Au nouveau roi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la passation de pouvoir. Voilà. Le nouveau roi. Et donc, pour en terminer, en l'an 2000, je vous disais tout à l'heure, en l'an 2000, on a essayé de faire quelque chose de peu particulier. On avait chez nous ce qu'on appelait le musée, qui était une salle où on se réunit toujours d'ailleurs. On avait plein de documents, de vieux documents, mais personne ne pouvait rentrer dans cette salle sauf nous, ou quelqu'un, est-ce que je peux visiter, ouais, attends, t'as la clé, etc. Donc on s'est dit, il faudrait avoir un lieu où on présente notre tradition à tout un chacun, à tous les gens qui vont passer au village. Et donc dans l'enceinte de l'Office du tourisme, on a créé à l'an 2000 le musée. Donc dans ce musée, on a ce que disait Jérôme le plumier au fond, c'est-à-dire c'est censé, alors c'est pas toujours à jour parce qu'il faut le mettre à jour, toutes les flèches de chaque archer, le nom de l'archer dessous, la couleur. En haut, il y a un petit écusson avec la flèche du roi, du connétable, du huissier de l'année. Les costumes traditionnels, un oiseau, une réplique de l'oiseau que vous avez sur la table. Ensuite, une réplique à l'échelle du mât, avec le mât des grands, des petits, des moyens, des petits archers. Et ensuite, tout un tas de documents qu'on a pu récupérer, des vieilles photos, etc. Et un coffre au milieu, qu'on a scellé à l'an 2000 et qu'on ouvrira en 2050. Et à l'intérieur, à l'an 2000, on a mis des choses. Les enfants ont mis des dessins, on a mis des poèmes, on a mis des... Je ne sais pas ce qu'on a mis. Alors, normalement, j'ai décidé de l'ouvrir en 2050. Pour l'instant, je tiens le coup. Ça me fera 91 ans, c'est possible. Donc, on verra. Donc, on l'a pas ouvert, il y a deux cadenas, il est fermé à clé.
Oui, c'est moi qui l'ai
fait. Et ensuite, il y a d'autres. Bon, il y a tout un tas de choses à voir. Et bientôt, il va être amélioré avec des vidéos. Avec...
Oui, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que voilà, les documents nous parlaient beaucoup à nous. Mais les visiteurs, regardez, on a une vidéo qui a été refaite il y a quelques années. C'est ce qui parle le plus. Et du coup, là, on a fait filmer les fêtes. On est en train de travailler avec un scénographe pour refaire tout ce qui est vidéo pour que ce soit. Le plus ludique possible pour que les gens qui viennent puissent se rendre compte de ce que c'est le papagaï, voilà, que ce soit un peu plus accessible encore.
Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure, mais on a. Les dates des fêtes, je ne sais rien, c'est pas bon.
Alors, si vous vous posez la question, c'est toujours le premier dimanche de mai.
Voilà.
C'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est le 1, 2, 3 mai. Voilà, vous tombez. Si vous avez un doute, une année, c'est le premier dimanche de mai, c'est le tir au papagaï.
Donc voilà, bon, écoutez, nous on vous a dit tout ce qu'on croit savoir, enfin tout ce qu'on nous a raconté.
On va essayer de répéter.
Voilà, si vous avez des questions, on est bien sûr, pas ceux qui sont à gauche, parce qu'on ne répond pas, mais ceux qui sont à droite, surtout ceux qui sont jamais venus, si vous avez des questions, si vous voulez venir voir le matériel, toucher l'oiseau, le soulever, parce que ça c'est intéressant de le soulever l'oiseau. Ça surprend. Ça surprend. Honnêtement, avant de partir, ceux qui ne l'ont jamais fait, venez le faire, ça vaut le coup. Ça surprend. Parce qu'on dit 4 kilos, on ne se rend pas bien compte. Mais... Ah, si l'oiseau il tombe seul. Alors voilà, ça c'est quelqu'un qui connaît. Ça nous est arrivé une fois, en 1988. On va chercher nos flèches. On se retourne. Oh, plus d'oiseau. Il était tombé tout seul. Et là, chance. Mais là, on a eu la chance.
Il y avait personne.
C'est quand même, il n'y avait personne dessous. Ouais. Et deuxième chance, en 89, c'était le bicentenaire de la Révolution. Alors, on a dit c'est normal qu'on n'ait pas de roi, puisque c'est la Révolution. Et donc, ça nous a permis de mettre. On a mis. Bon, il faut savoir qu'à Rio, on a eu toujours beaucoup de chance d'avoir des gens qui savent faire du théâtre, qui savent faire de la musique, qui savent écrire des poèmes, qui savent chanter. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a toujours eu dans le village plein de compétences comme ça, dans le milieu culturel, qui a fait qu'on a créé un spectacle en 89, extraordinaire, il faut venir le voir, on ne le joue plus. On a des vidéos, par contre. Un spectacle extraordinaire sur, on a imaginé, pourquoi il n'y avait pas de roi, etc., etc. Voilà. Pour le bicentenaire de la Révolution. Donc c'est arrivé d'une fois, en 88. Voilà. Pourquoi il est tombé tout seul? Ah, mais parce qu'il était comme
pas
ça.
Beaucoup, un petit coup de vent.
Il tenait pas bouger. Beaucoup. On a des recherches parce qu'on a voulu aller chercher nos flèches. Quelqu'un l'a peut-être touché.
Avant l'oiseau, il tenait sur 4 cm et il tombait sur 4 cm. Donc il pouvait vraiment se mettre comme ça. En diagonale. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça, c'est garanti par GG, c'est plus possible. Il ne peut plus faire ça. Donc, normalement, il peut. Non, je ne vais pas le dire. Donc, il peut toujours tomber tout seul, mais c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, il faut vraiment un vrai impact. Il ne peut plus se mettre plus de pied, avoir un petit coup de vent.
Ouais, des fois, il se mettait à travers, comme ça, il ne tombait sur rien du tout. Ouais. Là, il tombe tout seul.
Oui, on pouvait passer un quart d'heure, l'oiseau, il faisait ça.
On ne l'a pas fait exprès. On ne l'a pas fait exprès.
Vous avez eu recours à la vidéo pour vérifier
que
la
flèche
est
bien touchée? Alors, la vidéo? Non. On fait confiance aux gens. Moi, je me dois vérifier. Donc, quand les gens ne sont pas sûrs, alors il peut arriver, on a trouvé une photo, par exemple, où il y a deux flèches qui ont tapé à la même seconde, même centième de seconde. On la diffusera parce qu'on a trouvé cette photo, on trouve ça délirant. Et Mais heureusement que l'oiseau n'est pas tombé, parce que alors là, je ne sais pas comment on aurait fait. Mais en général, on fait confiance au roi, et quand il y a un litige, voilà, les deux qui sont prétendants viennent, on discute, on voit, on analyse ce qui se passe. Et aujourd'hui, voilà, on a des photos, etc. Mais c'est les archers et le conseil d'administration pour, à ce jour qui décident.
Alors, c'est vrai qu'à toute bonne foi, on est de bonne foi. Les archers sont de bonne foi, ça c'est pas possible autrement. Par contre, il y a deux flèches qui arrivent en même temps, une qui touche et l'autre qui passe juste à côté. Ça peut arriver. Et sur le coup, on est persuadé qu'on l'a touché. Quoi. Parce que la flèche elle arrive et ça va très vite, hein, c'est
microseconde.
Donc ça peut arriver, effectivement, qu'on dit qu'il y en a deux qui disent non, c'est pas lui, c'est moi. Ça nous est arrivé. Dans l'histoire, ça nous est arrivé plusieurs fois. On l'a toujours géré. Voilà.
Aujourd'hui, on a le moyen de vérifier. Voilà.
Aujourd'hui, effectivement, avec les moyens modernes, on a beaucoup plus de moyens que ce qu'on avait il y a 40 ans pour vérifier c'est quoi la couleur de la flèche qui a touché.
La flèche du roi, normalement, oui. Alors, sauf surprise, parce qu'on a une surprise une fois, c'est-à-dire que l'archer qui était roi, il a tapé sur l'angle ici. Là. Donc la flèche, elle est partie dans la raisin. Mais il l'a fait tomber quand même. Hein. Heureusement, c'était le seul. Donc, on a vu la photo. En général, les flèches qui tapent, tombe pas loin de l'oiseau, et la flèche qui tape, qui fait tomber l'oiseau, elle tombe au pied du mât. Normalement, on ne va pas la chercher très loin. C'est pour ça que ceux qui vont vérifier, quand même, ils vont pas très loin pour vérifier.
Ah oui, elle tape, et du coup, quand elle a fait tomber l'oiseau...
Elles sont creux. Bon, en général, elles se détruisent. Donc là, vous avez les flèches, bon, le fer explose, il reste un morceau de bois, et le fer a été complètement décapité. Bon, la plupart du temps, les flèches retombent comme ça. Donc, si on a un peu de chance, on récupère la flèche avec le fer, le bout est vert ou jaune en fonction de où il a tapé, il y a déjà une bonne piste. Et sinon, voilà, on a vérifié.
Ça arrive qu'elle ne casse pas, parce que si l'oiseau est vraiment en train de tomber, il y a moins de force.
Il faut très peu de force pour ça.
Il y a moins de force pour venir à terre. Quoi.
Voilà. Si vous avez d'autres questions.
J'avais une petite question. Est-ce que vous arrivez à vous entraîner entre chaque tir, justement?
Alors, non, on ne s'entraîne pas. Alors, les enfants, oui, les enfants, mais quand on est gosse, on met main dans le jardin, on tire sur la toiture du voisin.
C'est ça,
je sais pas. Mais non, et on ne s'entraîne pas, et dans la tradition, on ne s'entraîne pas. Mais on n'arrive pas à entraîner. Alors, effectivement, c'est encore un inconvénient en plus, quoi.
On s'entraîne au premier roulé.
Surtout au tir à la cible, parce qu'au tir à la cible, on tire 8 flèches, hein, 8 flèches, 8 flèches. Alors, la première, c'est pour s'entraîner, la seconde aussi, la troisième aussi, après, c'est mort, quoi. Quand on le manque 3 fois. Mais bon. C'est comme ça. On ne s'entraîne pas. Alors, dans les anciens documents qu'on a pu retrouver, il paraîtrait qu'il y a eu des périodes où le roi devait convoquer la compagnie plusieurs fois l'année pour tirer le paperel. Mais aujourd'hui, depuis au moins le début du XXe siècle, c'est une fois par an et on ne s'entraîne pas.
Bon, on n'a plus à défendre le village. Donc...
Comment ?
Avant, il y avait les berceaux aussi.
Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire.
Les berceaux en jeu d'arc, c'est une cible à 50 mètres, une cible à 50 mètres, on tire dans un sens, une flèche.
Ouais.
On va chez les
mères. Ah, et, non, c'est pas ça.
C'est des jeux d'arc pour s'entraîner.
D'accord. Non, mais nous, à Rieux, il n'y a jamais eu d'entraînement. Sauf clandestin, quoi. Comme Jérôme, il s'entraîne chez lui, mais vous savez.
Bon, en général, on apprend aux petits à tirer quand même, parce qu'il faut qu'ils arrivent sans savoir tirer, et aux nouveaux archers. Voilà, les nouveaux archers qui ont jamais tiré au papouaï. Il faut qu'ils soient autonomes, donc il faut qu'ils sachent comment ça fonctionne. Donc, on leur apprend le geste, mais on ne peut apprendre que le geste. Parce que pour avoir un mât de 45 mètres pour cibler quelque chose, bon, à moins d'aller tirer sur le clocher, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit
d'accord. C'est vrai que quand j'étais gosse, on s'entraînait. Bon, quand j'étais gamin, dès que le mât était monté, on allait tirer sur le mât. On foutait l'oiseau par terre et il y avait un monsieur qui devait remonter avec une échelle, remettre l'oiseau une fois, deux fois, trois fois.
Bon. Bon, maintenant, il ne faut plus le faire, c'est pas une bonne idée.
C'était pas bien,
c'était jeune, mais...
Oui, une question à ma gauche.
Suivant l'emplacement où vous êtes au pied du...
Moi ?
Si vous êtes près et loin, est-ce qu'il y a davantage de chances de toucher l'oiseau ?
Alors, quand on est plus proche, on a davantage de chances de le toucher.
Et est-ce que vous faites tourner... Est-ce qu'il tourne les...
Non, les archers, non, ne pas. Historiquement, les anciens sont devant. Voilà, parce que nous, on essaie de respecter cette hiérarchie. Si un jeune archer qui allait dans l'ombre veut s'avancer, il faut qu'il demande à celui qui est devant lui, est-ce que je peux prendre ta place ou est-ce que je peux tirer à côté de toi. Voilà, en général, ça se fait comme ça. Les anciens sont devant, ou les plus aguerris.
On a nos places.
On a nos places.
Sauf Sauf par exemple, moi j'étais devant, et petit à petit je recule parce que ça fait mal à la cervicale, ça fait mal aux épaules de se tenir comme ça. Et donc petit à petit je recule. Et quand on est derrière, le roi qu'on a vu tout à l'heure, Christian, là, oui. Il était complètement au fond, il a touché l'oiseau une fois. En tout en travers, comme ça, boum, il a fait tomber.
C'est un peu plus facile quand on est devant, c'est un peu plus sportif parce qu'il y a beaucoup de flèches qui nous retombent dessus, mais c'est possible de partout. On peut être trois de même.
En fait, celui qui est en travers, il va le toucher moins facilement, mais par contre, il a beaucoup. Enfin, je veux dire, il a le bras de levier qui est beaucoup plus important, donc il peut le déstabiliser plus facilement. Mais c'est plus difficile. Hein. C'est
plus dur.
Ah oui, on garde la même place. Ouais, c'est marqué sur le stade. Ouais, on garde la même place en général. Ah, voilà. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, vous avez vu, tout à l'heure, Jérôme a montré le groupe folklorique. C'était une des premières actions qui a été menée pour que, les dames, les filles et les dames puissent participer. Parce qu'auparavant, les femmes ne participaient pas du tout. C'était les hommes du début jusqu'à la fin. Y compris après le tir. Alors, si, on a des écrits où, quand même, les dames venaient voir. Voilà, elle avait le droit de venir voir, mais c'est tout.
Oui, après,
donc on s'est attaché quand même, depuis on va dire, la deuxième partie du XXe siècle, à progressivement intégrer nos épouses, nos enfants, etc., à la fête. Donc elles participent aujourd'hui, elles se costument, elles dansent, elles font des costumes, elles nous repassent des chemises, etc. Elles nous font... Non, je plaisante. Mais effectivement, alors pourquoi les femmes ne tirent pas? Alors c'est vrai qu'il y a des compagnies d'archers, ou d'archers de compétition, etc., les filles tirent à l'arc. Il n'y a aucune raison que les filles ne puissent pas tirer à l'arc. La raison, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, notre but, c'est de maintenir une tradition. Et cette tradition, il n'y a jamais eu de femmes, jusqu'à aujourd'hui. On s'est posé la question encore récemment.
On a fait...
On a eu un grand débat l'année précédente, là, sur ce sujet. Et il mérite d'être posé, c'est-à-dire, est-ce que... Parce que notre tradition, elle ne vit que parce qu'elle évolue. C'est-à-dire, si elle est figée, à un moment donné, elle s'arrêtera. Ça, on en est conscient, et depuis 40, 50 ans, on sait très bien que la société évolue, et on l'a fait évoluer. Bon, on n'a pas tout raconté, hein. On l'a fait évoluer petit à petit, c'est pour ça qu'elle est encore vivante. Là, c'est une grosse marche, à passer. Alors, on a interrogé.
C'est la première année, l'an dernier à l'Assemblée Générale, c'est la première fois où on a officiellement posé la question, parce que nous, la question, on nous la pose depuis, alors, on a des traces il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, où c'était. C'était une petite question dans le coin, enfin, c'était pas grand-chose. Et depuis 10 ans, c'est voilà, un peu plus fort, pourquoi, etc. Donc, voilà. Là, l'an dernier à l'Assemblée Générale, on a posé la question aux adhérents, aux archers et aux archirotes, de savoir est-ce que. On s'autorisait à se poser la question un petit peu plus. Donc pour le moment, voilà, c'est une question qu'on reposera certainement. Pour le moment, ce sujet-là n'a pas été abordé. Enfin, n'a pas été acté.
La réponse a été non, pour l'instant, on ne va pas plus loin. Voilà. Mais.
On verra ce que. Voilà, on verra ce qui se passe dans.
Peut-être qu'un jour, peut-être que nous ne le verrons pas, hein, mais peut-être qu'un jour ça évoluera comme ça. Dans le Nord, les dames tirent, il y a les reines, etc.
Ouais, et puis dans les années 40, on a des images, on a 2-3 années où les dames ont tiré, et puis ça s'est arrêté.
Voilà.
Voilà, ça a duré.
Il y a des tirs au papouret qui sont fusillés. Bon, je veux dire, ça évolue, voilà, il y en a qui tirent au fusil depuis des années. Bon, nous, on tire à la verticale avec nos drapes, nos flèches, et jusqu'à présent, c'est les hommes qui participent. Voilà.
Plus il y a de monde, plus le cercle s'élargit.
Non, non, mais après, si un jour, alors on ne l'a pas encore imaginé, mais imaginons qu'un jour on dise, bon, mais pourquoi pas faire participer les dames, ce serait un tir particulier, parce qu'on ne voit pas comment on pourrait, aujourd'hui, faire un autre temps. Quoi.
Physiquement, mais c'est
parce que c'est quand même particulier. Quoi.
C'est une question que nous, on s'est posée. Au sein du bureau, on s'est posé, au sein de conseil d'administration, on s'est posé. On a posé du coup aux membres.
Mais on n'est pas misogyne, hein, du tout.
Non. Mais il faut que ce soit accepté par une majorité, parce que le but, si ça se met en place, il faut que ce soit pérenne et il faut que ce soit adapté à tout le monde. Voilà. Donc c'est pas dit que si ça doit se faire, ce soit la même chose. Je sais pas du tout.
On va faire pour l'instant, voilà. Pour le moment, pour l'instant, c'est la tradition qui a levé le.
Est-ce que vous avez
des
demandes?
Oui, justement, on a pu se prédiger. Ces dernières années, c'est un peu plus pressant. Mais c'est hors de question d'intégrer des dames en même temps que nous, ça c'est hors de question, c'est trop dangereux. On ne peut pas se le permettre. Il faudrait leur créer quelque chose de spécifiquement pour elles. Parce que dans le Nord et le Fond, ils tirent chacun son tour. Donc chacun son tour, tout va bien. D'accord, tout va bien. Le mât est à 40 mètres qu'il comprend. Madame le maire, elle arrive à 15 mètres à tout près. Elle a très bien, elle s'est en train de tous les ans. Excusez-moi, je n'entends pas.
Ça ne vous a pas posé de problème que madame le maire
doit... Ah non, mais...
Non, mais ça va,
c'est la tradition, c'est le maire.
C'est le maire, donc que ce soit monsieur ou madame...
Non, mais elle tire pas, elle participe pour tir.
Elle tire la première flèche.
C'est factice. Elle lance, c'est comme quand on lance les clés de la ville, quoi. C'est factice, après elle s'échappe vite. Voilà, donc si vous voulez venir toucher du matériel, voilà, c'est une mission. Merci. Ah, ouais, merci.
Messieurs, dames, juste une information, après cette très belle conférence, la Pépanvol tient à remercier nos deux conférenciers pour la mine d'informations qu'ils nous ont déversées. Et je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu le mercredi 25 mars à Montesquieu, à la salle polyvalente. Et le thème, ça sera le complotisme en ligne, pour ne pas tomber dans le panneau. Bonne soirée, et vous pouvez vous diriger vers le repas partagé, même si vous n'avez rien amené. Bonne soirée.